Chapitre 7 : La dialectique de la conscience. Parfois, le dégoût, la fatigue et l'ennui surgissent dans le travail ésotérique, en relation avec l'élimination des éléments indésirables que nous portons en notre intérieur. Incontestablement, il nous faut revenir toujours au point de départ original et revaloriser les bases du travail psychologique, s'il est vrai que nous aspirons à un changement radical. Il est indispensable d'aimer le travail ésotérique, quand on veut vraiment une transformation intérieure complète. Tant que nous n'aimerons pas le travail psychologique qui mène au changement, la revalorisation des principes s'avère plus qu'impossible. Il serait absurde de supposer que nous pouvons nous intéresser au travail si nous ne sommes pas réellement arrivés à l'aimer. Ceci signifie que l'amour est indispensable chaque fois que nous nous efforçons de revaloriser les bases du travail psychologique. Avant tout, il est urgent de savoir ce que l'on appelle conscience, car nombreux sont les gens qui ne se sont jamais intéressés à savoir quoi que ce soit à son sujet. Toute personne commune et courante ne saurait ignorer qu'un boxeur perd la conscience lorsqu'il tombe knock-out sur le ring. Il est évident que l'infortuné pugiliste retrouve la conscience en revenant à lui. N'importe qui comprend par conséquent qu'il existe une différence évidente entre personnalité et conscience. À la naissance, nous avons tous 3% de conscience et 97% à répartir entre subconscience, infraconscience et inconscience. Les 3% de conscience éveillée peuvent être augmentés à mesure que nous travaillons sur nous-mêmes. Il n'est pas possible d'accroître la conscience par des procédés exclusivement physiques ou mécaniques. Il est indubitable que la conscience ne peut s'éveiller que grâce à des travaux conscients et des souffrances volontaires. Il y a plusieurs types d'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons le comprendre. Premier type, énergie mécanique. Deuxième, énergie vitale. Troisième, énergie psychique. Quatrième, énergie mentale. Cinquième, énergie de la volonté. Sixième, énergie de la conscience. Septième, énergie de l'esprit pur. Nous aurons beau multiplier la quantité d'énergie strictement mécanique, nous n'arriverons jamais à réveiller la conscience. Nous aurons beau augmenter la quantité de force vitale à l'intérieur de notre organisme, nous n'arriverons jamais à réveiller la conscience. Beaucoup de processus psychologiques se réalisent en nous-mêmes sans qu'intervienne la conscience. Pour grandes que soient les disciplines du mental, l'énergie mentale n'arrivera jamais à réveiller les divers fonctionnalismes de la conscience. La force de la volonté, même multiplié à l'infini, n'arrive pas à réveiller la conscience. Tous ces types d'énergie s'échelonnent en différents niveaux et dimensions, qui n'ont rien à voir avec la conscience. La conscience ne peut être réveillée que grâce à des travaux conscients et des efforts corrects. Le petit pourcentage de conscience que l'humanité possède est habituellement gaspillé inutilement dans la vie, au lieu d'être augmenté. Il est évident qu'à nous identifier avec tous les événements de notre existence, nous dilapidons inutilement l'énergie de la conscience. Nous devrions voir la vie comme un film, sans jamais nous identifier avec aucune comédie, drame ou tragédie, ainsi nous économiserions l'énergie de la conscience. La conscience est, en elle-même, un type d'énergie à fréquence vibratoire ultra élevée. Il ne faut pas confondre la conscience avec la mémoire, car elles sont aussi différentes, l'une de l'autre que le sont la lumière d'un phare d'automobile et la route où nous roulons. Il se réalise beaucoup de phénomènes à l'intérieur de nous-mêmes, sans la moindre participation de ce qu'on appelle conscience. Beaucoup de processus d'adaptation et de réadaptation interviennent dans notre organisme, sans que la conscience y participe. Le centre moteur de notre corps peut conduire une voiture ou diriger les doigts sur le clavier d'un piano sans la moindre participation de la conscience. La conscience est la lumière que l'inconscient ne perçoit pas. L'aveugle non plus ne perçoit pas la lumière physique du soleil. Mais celle-ci existe par elle-même. Il nous faut nous ouvrir pour que la lumière de la conscience pénètre dans les ténèbres épouvantables du moi-même, du soi-même. Maintenant, nous comprendrons mieux la signification des paroles de Jean, quand il dit dans l'Évangile « La lumière vint aux ténèbres, mais les ténèbres ne la comprirent pas ». Il serait impossible à la lumière de la conscience de pénétrer dans les ténèbres du moi-même si nous n'utilisions pas au préalable le sens merveilleux de l'auto-observation psychologique. Il nous faut ouvrir un passage à la lumière, pour qu'elle illumine les profondeurs ténébreuses du moi de la psychologie. On ne s'auto-observerait jamais, si on n'avait pas d'intérêt à changer. Cet intérêt n'est possible que si on aime vraiment les enseignements ésotériques. Nos lecteurs comprendront maintenant pourquoi, nous conseillons de revaloriser très souvent, les instructions concernant le travail sur soi-même. La conscience éveillée nous permet d'avoir l'expérience directe de la réalité. Malheureusement, l'animal intellectuel, erronément appelé homme, fasciné par le pouvoir de formulation de la logique dialectique, a oublié la dialectique de la conscience. Il est incontestable que le pouvoir de formuler des idées logiques s'avère, au fond, terriblement pauvre. De la thèse, nous pouvons passer à l'antithèse, et grâce à la discussion, arriver à la synthèse, mais celle-ci, en elle-même, reste une idée intellectuelle qui ne peut, en aucun cas, coïncider avec la réalité. La dialectique de la conscience est plus directe. Elle nous permet d'avoir l'expérience de la réalité de tout phénomène, en soi-même et par soi-même. D'aucune manière, les phénomènes naturels et les idées formulées par le mental ne coïncident exactement. La vie se déroule d'instant en instant, et quand nous la capturons pour l'analyser, nous la tuons. Quand nous essayons de tirer des conséquences de l'observation de tel ou tel phénomène naturel, nous nous arrêtons en fait de percevoir la réalité du phénomène, et nous n'y voyons plus que le reflet des théories et idérances qui, n'ont en fait rien à voir avec le phénomène observé. L'hallucination intellectuelle est fascinante et nous voulons à tout prix que coïncident tous les phénomènes de la nature et notre logique dialectique. La dialectique de la conscience repose sur les expériences vécues et non sur le simple rationalisme subjectif. Toutes les lois de la nature existent à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous ne les découvrons pas en notre intérieur, jamais nous ne les découvrirons hors de nous-mêmes. L'homme est contenu dans l'univers, et l'univers est contenu dans l'homme. Est réel ce que l'on expérimente dans son propre intérieur, seule la conscience peut expérimenter la réalité. Le langage de la conscience est symbolique, intime, profondément significatif et seuls, les gens éveillés peuvent le comprendre. Celui qui voudrait éveiller la conscience, doit éliminer de son intérieur, tous les éléments indésirables qui constituent l'ego, le moi, le moi-même, et dans lesquels l'essence est enfouie.